Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition des 18h30, temps universel de ce 21 août 2019. John Lydon à la présentation, tout d'abord les titres de cette édition. La transition vers un pouvoir civil prend corps au Soudan, le Conseil souverain a prêté serment. Au Gabon, Paulette Ayo-Akolé, présidente de la Cour d'appel, est suspendue de ses fonctions après sa décision sur une expertise médicale sur les capacités à gouverner du président Ali Bongo après son AVC. Le président Donald Trump annule sa visite au Danemark, à Copenhague. On joue l'apaisement. Nous irons ensuite à la rencontre du coiffeur des présidents américains depuis plus de 50 ans. Diego D'Ambrosio a un salon fréquenté par les puissants de ce monde. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Soudan, le Conseil souverain a prêté serment et doit rapidement confirmer la nomination d'un premier ministre de consensus. C'est la suite de l'accord sur la transition conclue entre les généraux et les leaders de la contestation. Les précisions avec Eki Abadou.
Le Conseil souverain, composé de 6 civils et 5 militaires, va diriger la transition. Le chef du Conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du nouveau Conseil souverain. Les noms des 11 membres ont été annoncés mardi soir, avec 2 jours de retard sur le calendrier prévu. Ce Conseil souverain, qui comprend 2 femmes, dont l'une est issue de la minorité chrétienne, devra superviser la formation du gouvernement. Une annonce est prévue le 28 août. Et d'un parlement de transition. Le premier ministre choisi par la contestation, Abdallah Hamdok, doit à son tour être nommé ou infirmé au plus tard ce mercredi. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi, le général Burhan sera aux commandes pendant 21 mois et un civil lui succédera pour les 18 mois de transition. Les nouvelles institutions se mettent en place en même temps que le début du procès du président déchu, Omar el-Béchir, accusé de corruption.
Les présidents du Rwanda et de l'Ouganda ont signé un accord destiné à mettre fin aux tensions opposant les deux voisins. Ces deux anciens alliés en étaient venus à s'accuser mutuellement d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence. Paul Kagame et Yoweri Museveni se sont engagés à respecter leur souveraineté réciproque et celle de leur pays, selon un communiqué commun rendu public après la signature d'un protocole d'accord à Luanda en Angola. Au Niger, deuxième et dernier jour de la grève des employés du réseau de télécommunications Orange, les grévistes veulent obtenir des négociations salariales et des garanties sur l'avenir de leur emploi. Selon Ali Achimou, délégué du personnel, la grève est largement suivie sur l'ensemble du pays. Si nous n'obtenons pas satisfaction, nous reconduirons l'arrêt du travail, a-t-il précisé. En Guinée, le fondateur du groupe de presse Lynx a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Souleymane Diallo, doyen de la presse guinéenne, est accusé, entre autres, de diffusion de données dites de nature à troubler la sécurité publique. M. Diallo a été convoqué suite à la production d'une émission interactive sur Lynx FM, une radio privée installée à Conakry. Au Mali, 5 soldats ont été tués dans le centre du pays, dans une embuscade tendue par des djihadistes qui ont également détruit leur matériel. Une mission d'escorte des FAMA, l'armée malienne, est tombée dans une embuscade entre Boni et Ombori. Ce matin, les FAMA déplorent 5 morts. Du matériel a aussi été détruit, indique l'armée malienne sur son compte Twitter. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Charles Blé Goudé, l'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, a indiqué avoir reçu à la haie des émissaires de l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier à 1 an de la présidentielle de 2020. L'ancien ministre Maurice Kakou-Goukaoué, numéro 2 du PDCI, conduisait une délégation composée de l'ex-maire du plateau Noël Akossi Benjo et du porte-parole du PDCI Narcisse Kouadio-Ndré. La présidence de la Cour d'appel du Gabon suspendue de ses fonctions, le gouvernement reproche à Paulette Ayo-Akolé sa décision sur la demande d'expertise médicale sur la capacité du président gabonais à diriger le pays depuis son AVC en octobre 2018. Les détails à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obianzé.
Plus d'une semaine après le renvoi de l'audience, de l'examen de fond du dossier au 26 août prochain par la Cour d'appel de Libreville, le mouvement Appel à agir se voit débouté de sa demande d'expertise médicale, devant évaluer les capacités physiques et cognitives d'Ali Bongo Ondimba à diriger le pays après son accident vasculaire cérébral intervenu en octobre 2018. Le secrétariat général de la chancellerie, organe placé sous tutelle du ministère de la Justice, estime que l'éventualité de ce procès plaçait Paulette Ayoua Koli dans une position semblable à un manquement aux convenances de son statut de magistrat. Il est ainsi reproché à la juge presque un passage en force après l'irrecevabilité de la demande du collectif des ONG locales prononcée le 12 août dernier par la Cour de cassation. La juge écope alors d'un mois et demi de suspension de ses fonctions, avec incidence financière selon le document officiel qui lui a été notifié par voie d'huissier. L'audience du 26 août devient vraisemblablement incertaine au regard des derniers développements de ce dossier sensible sur la santé du président Ali Bongo Ondimba. Libreville, Ismaël Obianzé, VO Afrique.
Une présidentielle sous certaines conditions est la meilleure solution pour sortir l'Algérie de la crise actuelle. C'est ce qu'estime Ali Benflis, ex-premier ministre puis principal adversaire électoral du président déchu Abdelaziz Bouteflika. M. Benflis a reçu mercredi Karim Younes, coordonnateur de l'instance nationale de dialogue. Cet organisme est chargé par le pouvoir de définir les modalités de la présidentielle que souhaitent organiser dans les meilleurs délais les autorités.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Danemark joue à l'apaisement après l'annulation par Donald Trump d'une visite d'État dans ce pays scandinave. Copenhague a refusé de vendre le Groenland aux États-Unis et l'annulation de la visite de M. Trump a suscité la surprise de la reine et du gouvernement. Nathalie Barge.
La presse américaine a récemment révélé que Donald Trump s'était renseigné sur la possibilité pour les États-Unis d'acheter le Groenland, immense territoire autonome de 56 000 habitants rattaché au Danemark. Monsieur Trump avait ensuite publié des tweets confirmant son intérêt pour l'île glacée de l'Arctique, déclenchant des réactions au Groenland et au Danemark. En déplacement sur le territoire, la première ministre danoise Mette Frederiksen avait précisé que Copenhague n'a pas le pouvoir de vendre cette entité, bénéficiant d'une large autonomie. Hier soir, la Maison-Blanche a annoncé l'annulation de la visite du président américain au Danemark, prévue les 2 et 3 septembre. Étant donné les commentaires de la première ministre Mette Frederiksen, je vais repousser notre rencontre à un autre moment, a expliqué M. Trump sur Twitter. À Copenhague, la reine Margrethe, à l'origine de l'invitation, s'est dite surprise tandis que la classe politique du pays scandinave a exprimé sa stupéfaction.
Deux soldats américains ont été tués ce mercredi en Afghanistan, selon l'OTAN, alors que des pourparlers potentiellement décisifs entre États-Unis et talibans sur l'avenir du pays vont s'ouvrir à Doha. Les deux hommes ont été tués en opération, a indiqué sans autre détail le communiqué de la mission de l'OTAN Resolute Support. Ces décès portent à au moins 14 le nombre de soldats américains tués depuis le début de l'année dans le pays, contre 12 au total en 2018. Ici, toujours aux États-Unis, Thomas Anderson, accusé d'avoir frauduleusement exploité un programme pour faire délivrer des visas à des investisseurs étrangers, a été arrêté en Californie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Thomas Anderson et deux complices Kelsin Hu et Lee Cooper ont été inculpés de complot pour avoir détourné des fonds d'investisseurs étrangers, mensonges et fausses déclarations au service d'immigration. Messieurs Anderson et Lee ont été arrêtés hier. Kelsin Hu, qui gérait le bureau de l'Américain à Shanghai, est toujours recherché. Anderson a soutiré plus de 110 millions de dollars à 200 investisseurs chinois, indiens et vietnamiens cherchant la carte verte aux États-Unis en vertu du programme de visa EB-5. Les fonds détournés étaient censés servir à créer 7 nouvelles entreprises qui devaient générer plus de 2000 emplois en Californie. En lieu et place, Anderson a utilisé l'argent pour acheter des biens commerciaux, une compagnie de saucisses et investi dans d'autres projets personnels. D'après l'acte d'accusation, ces investisseurs sont peu susceptibles de recevoir une résidence permanente parce que les projets dans lesquels ils ont investi n'a pas créé de nouveaux emplois. Le programme EB-5 prévoit que les étrangers peuvent recevoir la résidence permanente aux États-Unis en investissant 500 000 à 1 million de dollars dans une entreprise américaine qui crée au moins 10 emplois.
Et puis l'administration de Donald Trump annonce ce mercredi qu'elle va retirer les strictes limites régissant le temps passé en centre de rétention par des enfants migrants clandestins. Le ministère américain de la Sécurité intérieure a déclaré qu'il mettait fin à une décision judiciaire de 1997 imposant aux autorités fédérales de ne pas maintenir en détention les enfants plus de 20 jours. La nouvelle règle, qui doit être mise en œuvre dans 2 mois, ne limitera plus le temps passé par les enfants ou leurs familles dans ces centres de rétention. Et puis l'ONU a indiqué avoir été contrainte d'arrêter, faute de financement, plusieurs programmes d'aide au Yémen. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Nani Talani.
4 anciens responsables de la Banque centrale du Libéria ont été inculpés de blanchiment d'argent puis arrêtés dans l'enquête sur l'entrée de billets dans le pays entre 2016 et 2018. Ces 4 personnes, ainsi que Charles Sirleaf, fils de l'ex-présidente Hélène Johnson Sirleaf, sont accusés d'avoir fait imprimer illégalement un excédent de billets de 16,3 millions de dollars. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, appelle à accélérer l'exploitation de l'immense potentiel hydroélectrique du pays. Plus de 90% de l'énergie consommée en RDC provient du bois. L'absence de progrès dans la desserte en énergie propre et renouvelable constitue une menace directe pour ces forêts. La forêt du bassin du Congo est l'une des plus vastes au monde après l'Amazonie. Le gouvernement du Soudan du Sud a annoncé la découverte d'un important gisement de pétrole dans la région d'Adar, dans le nord. La production démarrera d'ici la fin de l'année et sera reliée aux champs pétrolifères de Palok, qui sont gérés par le consortium Dar Petroleum Operating Company. Le gouvernement de Djouba s'est engagé à croître d'ici 3 ans son niveau de production pétrolière, qui est actuellement de 180 000 barils par jour. Terminons avec la Guinée équatoriale, qui va se doter d'une grande usine de stockage de gaz naturel liquéfié. Avec une capacité de 14 000 m3, ce sera la première usine de gaz jamais construite en Afrique subsaharienne. Ce projet vise à créer un marché intra-africain du gaz naturel liquéfié.
Et nous voici en sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Des nouvelles des Jeux africains Maroc 2019 pour commencer.
Oui, du taekwondo au menu du jour. Nous prenons tout de suite la direction de Rabat pour retrouver Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, sur place dans la capitale marocaine.
Ce mercredi, c'est le taekwondo qui était à l'honneur au complexe sportif Moulay Abdallah. Le plus connu de tous, l'Ivoirien Cheikh Cissé, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio 2016 au Brésil, s'est qualifié sans difficulté pour les demi-finales. Il s'est d'abord débarrassé du Sud-Soudanais Loïc Louis au premier tour, avant de marcher sur le Nigérian Idrissa Mahamadou en quart de finale avec plus de 24 points d'écart. Il demeure une valeur sûre pour la Côte d'Ivoire dans la conquête de la médaille d'or dans la catégorie des moins de 80 kg. Pour ce qui est du tableau des médailles, c'est l'Égypte qui domine pour le moment les débats avec 14 médailles, dont 5 en or, 4 en argent et 5 en bronze. Elle est suivie de l'Algérie qui totalise également 15 médailles, mais 5 en or, 3 en argent et 7 en bronze. Le Maroc complète le podium avec 13 médailles, dont 3 en or, 5 en argent et 5 en bronze. Les Jeux africains Rabat 2019 ont annoncé les couleurs depuis le 19 août et ce jusqu'au 31 prochain. 6396 athlètes participent à cette 12e édition à travers 29 disciplines, dont 17 sont qualificatives pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Kader Traoré à Rabat pour VOA Afrique.
Et Alain Giresse, ce n'est plus sélectionneur de la Tunisie.
La Fédération tunisienne de football a mis fin à l'amiable au contrat de l'entraîneur français qui occupait le poste de sélectionneur depuis moins d'un an. En décembre, Alain Giresse avait signé un contrat de 18 mois renouvelable pour entraîner l'équipe nationale tunisienne en remplacement du Tunisien Faouzi Benzarti. Après des débuts chaotiques, la Tunisie s'est hissée cette année en demi-finale de la CAN battue par le Sénégal. Jires, 67 ans, a successivement dirigé le Gabon, le Mali et le Sénégal avant de retourner au Mali entre 2015 et 2017.
Enfin, Yacouba, la FIFA a nommé un comité de normalisation à la Fédération égyptienne de football.
Ce comité composé de 5 personnes est présidé par Amr Youssef Hassan El Ganaini. Il a été nommé par la FIFA suite à la démission de son président durant la CAN. Le comité de normalisation doit, entre autres, assurer la gestion des affaires courantes, selon le communiqué de l'instance mondiale du foot. La mission de ce comité expirera au plus tard au 31 juillet 2020.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lydon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par le Soudan. Début d'une nouvelle ère à Khartoum. Le Conseil souverain, composé de 6 civils et 5 militaires, a prêté serment aujourd'hui pour assurer la transition des 39 mois avant l'organisation des élections. C'est après l'accord historique entre les militaires et la contestation. Quels sont les défis qui attendent les nouvelles autorités de Khartoum? Eric Manirakiza a joint Salah Mohamed El Hassan, correspondant de VOA Afrique, dans la capitale soudanaise.
L'objectif principal, mettre fin à ce qui reste du régime du général Béchir, c'est-à-dire qu'on appelle ici l'État profond. Les lois de législation qui sert et qui restrictent les libertés publiques. Il y a aussi la réforme économique qui attend ce gouvernement après la destruction totale de l'économie soudanaise et tous les établissements de l'État soudanais. Ce sont des objectifs très important, très difficile, mais l'espoir est petit grand devant le peuple soudanais.
Est-ce un accord qui va tenir longtemps? Quelles sont les garanties?
C'est un début de changement. D'abord, la loi de la sécurité nationale a été changée, privée de droit d'arrêter et d'emprisonner les gens. Il a été transformé dans un système de collecte de renseignements, d'analyse, pour les mettre devant les autorités exécutives du pays. Alors ça ouvre la voie de transformation politique devant les forces politiques, devant le peuple soudanais et surtout devant la jeunesse soudanaise.
Quelles sont les garanties pour consolider l'étape qui vient de commencer?
La seule garantie est la révolution elle-même, la rue. La jeunesse qui a rempli et qui continue à remplir les rues, chaque fois un défi arrive devant le processus de démocratisation, de démocratie au Soudan. C'est la seule garantie pour l'avancement dans la rue de changement, de transformation politique. Et la jeunesse soudanaise en particulier et le peuple soudanais en général a fait preuve qu'il est capable de surmonter tous les obstacles qui peuvent bloquer le choix et le processus de démocratisation du processus démocratique au Soudan.
Vous avez dit qu'il faut vider tout ce qui reste du général Béchir. Est-ce que le risque de vengeance ne va pas replonger le pays dans le chaos?
Je ne pense pas. Il y a vraiment des grands défis qui affrontent le Soudan, mais le peuple soudanais et surtout la jeunesse est résolu à poursuivre le chemin de la résidence pacifique, à ne pas laisser l'occasion à des forces contre la révolution de créer une situation de chaos au Soudan.
Salah Mohamed El Hassan, correspondant de VOA Afrique à Khartoum.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, cela fait 400 ans que les premiers esclaves africains sont arrivés aux États-Unis, marquant le début de plus de 2 siècles d'esclavage en Amérique. Des millions de Noirs ont vécu dans la servitude jusqu'à l'adoption du 13e amendement qui abolit l'esclavage en 1865. Comment l'esclavage a marqué l'histoire des États-Unis? Quelles sont les séquelles de cet héritage? Quels progrès ont été réalisés? Les Africains américains et leur héritage? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Direction le Nigeria, où le nouveau gouvernement du président Muhammadu Buhari a prêté serment aujourd'hui. une nouvelle équipe qui entre en fonction 3 mois après la réélection du président Buhari. Voici le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Il semble au total 43 ministres à avoir prêté serment. Parmi eux, 14 ministres du gouvernement précédent. Le président Buhari a eu ces mots pour ses nouveaux ministres.
Notre économie doit être la source de la création des emplois pour permettre la croissance. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés présentement, je crois que tous les Nigérians vont garder espoir et maintenir leur optimisme pour le bien-être de notre économie.
Parmi les nouveaux ministres figurent Babatunde Fashola, ex-gouverneur de l'État de Lagos et ancien ministre de l'Énergie, qui est devenu ministre des Travaux publics et de l'Habitat. Timipré Silva, ancien gouverneur de l'État de Bayelsa dans le sud pétrolier, devient le ministre d'État du pétrole. Le président lui-même garde le portefeuille ministériel de ses départements. Rotimi Amechi, ex-gouverneur de l'État pétrolier de Rivers et ancien ministre des Transports, garde son poste. Ou encore Geoffrey Onyema aux affaires étrangères. Seulement 7 femmes figurent parmi les 43 membres du gouvernement. L'insécurité, la corruption, l'économie et la reconstruction du nord-est du pays, ravagés par une insurrection sanglante de Boko Haram, sont les dossiers les plus brûlants qui attendent la nouvelle équipe de Buhari. Ali Idi Ong est ancien ministre du Nigeria.
J'espère et je prie que les nouveaux ministres vont comprendre leurs responsabilités. Ils doivent soutenir le président pour la réalisation de son agenda de développement et des promesses faites aux Nigériens. Ils doivent travailler ensemble et s'assurer qu'ils trouvent des gens capables qui peuvent les aider dans leurs tâches.
Les populations nigériennes espèrent elles aussi que les nouveaux ministres de Buhari feront mieux que leurs prédécesseurs.
Je m'attends à ce qu'ils travaillent plus pour résoudre les problèmes, pas seulement rester dans les coulisses. Mais ils doivent aller sur le terrain et comprendre les problèmes des Nigériens au quotidien parce que les populations souffrent.
We know that he say he's going to change Nigeria.
Nous savons qu'il a promis de changer le Nigeria. Mais nous n'avons pas encore vu le changement. La situation est grave, les gens souffrent, il n'y a pas de travail.
Le président s'est engagé pendant la campagne à poursuivre ses programmes et à créer des millions d'emplois pour la jeunesse qui représente plus de 50% de la population nigériane. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
À partir du mois de septembre, VOA Afrique vous présentera Learning English. Un programme entièrement en anglais pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. La lecture posée, les phrases et le vocabulaire ont été spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. À très bientôt, tous les soirs à 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Rendez-vous pris donc au Tchad. Le président de la République annonce la réouverture des portes de la fonction publique après plus de 3 ans de blocus suite à la crise économique et financière que traverse le pays. Comment la jeunesse minée par le chômage accueille cette décision du chef de l'État? André Code Madinga, correspondant de VOA Afrique, N'Djamena.
J'instruis mon gouvernement, en particulier le ministère de la fonction publique, de procéder immédiatement au recrutement de tous les médecins formés, y compris ceux qui sont en instance d'intégration à la fonction publique, un total de 500 médecins.
Idriss Déby Itno, président du Tchad, redonna ainsi l'espoir aux milliers de jeunes diplômés sans emploi tchadiens. Depuis 2016, le gouvernement, face à la crise économique et sous la pression des bailleurs de fonds, avait gelé les recrutements à la fonction publique. Cette mesure coïncide avec l'arrivée de plus de 130 jeunes médecins tchadiens formés à Cuba. Ces derniers seront intégrés à la fonction publique. Le président Déby annonce aussi des recrutements dans différents secteurs.
Le gouvernement a été instruit à l'effet de procéder à l'intégration de tous les lauréats de nos écoles nationales de formation professionnelle. Je vous annonce le recrutement à la fonction publique de 20 000 jeunes diplômés dans tous les domaines d'activité dès l'année 2020.
Ces mesures sont prises avec des pincettes par les lauréats du CAP-CEG Certificat d'aptitude professionnelle destiné à enseigner dans les collèges d'enseignement généraux du Tchad. Ces derniers attendent leur intégration à la fonction publique depuis plus de 10 ans. Nanga Thierry en est le coordonnateur.
C'est inadmissible que l'État déploie de gros moyens pour former les enseignants puissent être abandonnés pendant 13 ans. Quelle injustice, alors que de l'autre côté, on intègre des gens à peine arrivés à la fin de leur formation. Ça, ce n'est que la parole. Et vous savez combien de fois ces mêmes autorités nous donnent des promesses, mais la réalisation pose problème. Donc, nous prenons avec réserve, mais nous souhaitons que cela se concrétise.
Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mboudou Mboudoumi, rassure ceux qui se posent encore des questions que ces instructions seront appliquées.
On ne peut pas commenter les instructions du président de la République. Ces instructions seront scrupuleusement respectées. C'est le président de la République qui a donné des instructions. Et moi, en tant que ministre, je suis un exécutant. Si la voix du président n'arrive pas à assurer ses diplômés sans emploi, moi, je suis au bas de l'échelle du gouvernement. Si j'ai dit ça également, ils ne vont pas me croire. Moi, je pense que les instructions ont été données, elles seront respectées, tout simplement.
Pendant ce temps, nous dit-on, le processus de contractualisation de près de 1000 diplômés sans emploi suit son cours dans les départements concernés, notamment l'éducation nationale et la santé publique. André Kotmadjingar Ndjamena, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VO Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici, aux États-Unis, depuis plus de 50 ans, un coiffeur de Washington coupe les cheveux des présidents américains. Il est même devenu une sorte de légende au point où sa popularité s'étend maintenant au-delà des frontières américaines. De nombreux présidents et dirigeants du monde sont devenus ses clients. Jacopo Luzzi a interviewé l'homme surnommé le coiffeur des présidents. Le récit de son histoire avec Michel Joseph.
Les présidents Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton sont quelques exemples de clients de Diego D'Ambrosio. Ce coiffeur d'origine sicilienne, basé à Washington, a coupé les cheveux de plus de 46 chefs d'État depuis 1968. Pour lui, c'est un privilège de couper les cheveux de tant de personnalités politiques, mais il ajoute que chaque client est important.
Tout le monde est important. Les personnes qui viennent ici, nous leur donnons la même chose.
En 2010, le maire de Washington DC a renommé la rue où se trouve son salon de coiffure. Avant, c'était Q Street. Maintenant, c'est nommé Allée Diego D'Ambrosio. Les fidèles clients reviennent parce qu'ils sont satisfaits non seulement de son travail, mais à cause de son implication dans la communauté locale.
Je viens ici depuis près de 40 ans. Lorsque tu arrives ici, c'est comme être en famille. Et de toute évidence, il est un excellent coiffeur et me donne toujours une meilleure mine.
Diego est coiffeur depuis plusieurs décennies et malgré quelques problèmes de santé, il n'a toujours pas l'intention de passer la main.
Je veux vous dire très sérieusement, j'aime mon travail, j'aime les gens, j'aime voir les gens, j'aime les servir et ça marche, il m'apporte de l'argent.
L'âge de ce fameux coiffeur reste un mystère, même les personnes qui travaillent quotidiennement avec lui ne savent pas s'il prendra sa retraite un jour. Une de ses employées témoigne.
Personne ne connaît son âge. Je pense qu'il a toujours le même aspect.
Apparemment, il ne vieillit pas, mais quel est son secret?
Ne pense pas que tu es malade ou vieux. Je ne pense jamais que je suis vieux.
Diego D'Ambrosio envisage de garder les portes ouvertes pour encore longtemps, car pour lui, les termes « entreprise fermée » ne feront jamais partie de son vocabulaire.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition mise en ordre par Michel Joseph. Abil Andreda était à la console. John Linden vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Bonsoir.